Et bonjour, vous êtes bien sur Radio FM+, le 91.00 à Montpellier, et comme vous avez reconnu certainement l'indicatif, nous sommes dans le festival. Alors je vais essayer pour la première fois, sans me compliquer de le dire, le nouveau festival Radio France Occitanie Montpellier 2025. Alors j'ai vu que le nouveau, ça hantait tout le monde, puisque j'ai cru comprendre que l'orchestre et l'opéra vont présenter leur saison, et ils appellent ça le nouveau orchestre et opéra. Bon, nouveau programme. Je ne sais pas alors là pourquoi c'est nouveau. C'est pas grave. Donc aujourd'hui au programme, nous allons avoir deux interviews. Nous allons avoir d'abord le Quatuor 4D avec un peu de musique au milieu. Et ensuite, nous aurons François Dumont avec un peu de musique aussi. Le Quatuor 4D, donc, c'est un quatuor de vent, c'est un quatuor de cuivre plus ou moins. Je vais vous donner le nom des artistes. Il y a Louis Dordain qui est saxophone soprano, Gaëtan Dupont, saxophone alto, Élodie Durand et compositrice saxophone ténor, et Guillaume Duchier, baryton, saxophone baryton. Alors tous les quatre ont donné 5 concerts. Les derniers étaient au Crès, à Castries, à Saint-Jean-de-Védas, et au programme, il y avait du Romero, du Glas, du Debussy, du Glazounov, du Lago, du Borodine et du Celsa. Donc nous allons les écouter tous les quatre, répondre à mes questions, évidemment toujours aussi pertinentes. Bien, alors le Quatuor 4D, d'abord. 4D, c'est l'une des œuvres qui a été composée pour vous, c'est ça? Alors, qui parle qui veut, hein. Donc c'est Élodie, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, donc vas-y Élodie.
Eh bien, la quatrième dimension, c'est une œuvre que j'ai composée pour... que j'ai composée moi pour le Quatuor, justement. À l'époque où on venait de se former et où les personnalités de chacun m'ont beaucoup inspirée.
D'accord. Alors vous venez tous d'où? J'ai vu que vous venez de quelque part, mais je n'ai pas noté. Je suis très bête. Donc vous venez d'où en gros, la région?
Alors le quatuor de saxophone est basé à Poitiers, parce que c'est là qu'on a commencé. Mais sinon, individuellement, on vient tous de régions différentes.
D'accord.
Des quatre coins de la France.
D'accord. Alors je suppose que vous êtes rencontrés où alors finalement? On change un peu.
On s'est rencontrés au Pôle Elinor à Poitiers, c'était un pôle supérieur de musique. Où on est tous rentrés, enfin du moins Élodie, Louis et moi, on est rentrés en première année de la licence du DNSPM. Guillaume, lui, était déjà en deuxième année. On se connaissait d'avant avec Guillaume, on s'était déjà rencontrés auparavant. Et au Pôle Aliénor, il nous incite beaucoup à faire de la musique de chambre, à jouer à plusieurs, et notamment dans la classe de saxophone, de faire du quatuor de saxophone. C'est vraiment ça qui nous pousse à faire le plus. Et du coup, on était les trois premières années. C'était évident qu'on soit ensemble, et je connaissais du coup Guillaume. Et du coup, c'est comme ça qu'il est venu avec nous.
D'accord. Parce que quatuor de saxophone, il y en a, mais il n'y en a pas les masses quand même. Hein. Il ne veut pas parler. Bon.
C'est vrai que c'est une formation qui n'est pas connue de tout le monde. Et nous, justement, ce qu'on aime bien, c'est la faire connaître. Et puis, ben, montrer qu'avec quatre saxophones mais différents, mais qui font partie de la même famille d'instruments, on est capable de sonner comme un petit orchestre. Quoi, finalement.
D'accord. Et c'est que des saxophones, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est tous les saxophones, donc du soprano au baryton, en passant par l'alto et le ténor.
D'accord. Et vous changez chacun, c'est pas toujours le même qui joue le même instrument.
Si, justement, parce que... Voilà. En fait, on débute tous souvent à l'alto, sauf qu'après, dans notre parcours professionnalisant, on est amené souvent à jouer d'autres instruments. Et donc là, quand on s'est rencontrés en quatuor, on a chacun choisi notre instrument un peu par affinité ou par choix ou non. Et puis, on s'est mis à travailler là-dessus. Et puis donc forcément, ça reste du saxophone, mais il faut quand même se professionnaliser sur cet instrument précis. Donc une fois qu'on a choisi, c'est un peu plus compliqué de changer.
D'accord.
Même si on est amené tous les quatre à pratiquer les quatre dans notre vie professionnelle, c'est mieux qu'on ait chacun notre instrument et qu'on n'y touche plus.
D'accord. Alors, je vais vous poser une question ce coup-ci. Détendez-vous. Donc, on passe facilement d'un saxo à un autre ou ça demande vraiment une adaptation technique?
Alors, ça, en fait, c'est les mêmes doigtés, donc on utilise les mêmes combinaisons de clés pour faire les mêmes notes, mais pas dans la même tonalité, parce que le saxophone alto et baryton sont en mi bémol et le soprano et ténor sont en si bémol. Donc, on fait le même doigté pour la même note écrite, mais ça sonne pas à la même hauteur.
D'accord.
Et en revanche, c'est pas forcément facile de passer de l'un à l'autre parce que suivant la taille de l'embouchure et la forme du tube...
Les écarts entre les touches, non c'est,
les écarts entre les touches, ça change pas grand-chose, c'est pas le plus compliqué.
D'accord.
Ce qui est compliqué, c'est surtout au niveau de l'embouchure, de la manière de souffler et de soutenir les notes ou pas.
Et combien on compte qu'il y a de saxophones différents? Vous êtes quatre, mais il y en a plus de quatre.
Oui, il y en a quatre principaux, mais il y en a sept dans la famille des saxophones.
D'accord.
Donc on a parlé déjà du soprano, alto, ténor et baryton. Encore plus grave, on a le basse et le contrebasse, qui est très rare.
Il faut une charrette pour le trémaler,
voilà,
c'est ça.
Voilà, tout à fait.
Et au-dessus du soprano... Comme les théorbistes qui ont des trucs qu'il faut mettre au-dedans, voilà, c'est ça.
Et au-dessus du soprano, on a le sopranino encore.
Sopranino, d'accord, voilà. D'accord. Donc vous restez sur ces quatre-là. Alors par contre, comment dirais-je, le type de musique, on viendra après sur les œuvres, le type de musique, vous passez de quoi? De la musique, entre guillemets, classique à la musique contemporaine, au jazz, etc.
Allez, on fait un peu de tout, hein, en fait. Hein. C'est ça qui est super avec nos instruments, c'est qu'on est tellement polyvalent qu'on peut faire n'importe quel style, de l'époque baroque à vraiment des musiques très contemporaines d'aujourd'hui. Après, nous, on prend vraiment le répertoire original du quatuor de saxophone. On essaie vraiment de jouer au maximum ça, même si, pour élargir un peu notre répertoire aussi, nos programmes, pour diversifier, on fait des transcriptions de quatuor à cordes, on fait des arrangements, on joue des mêlées de musique de films d'animation. Enfin, on essaie de faire un peu toucher à tout, en fait.
D'accord. Et c'est qui se charge de faire la transcription? Bon, on a une compositrice, mais c'est peut-être pas elle qui transcrit, si?
Non, la plupart du temps, et pour toutes les pièces qu'on a jouées jusqu'à maintenant, ce sont des adaptations et transcriptions d'autres personnes. On joue des adaptations de Christophe Bois, beaucoup de Guillaume Berceau aussi.
Bois, il fait du cuivre. Pardon, il ne fallait pas le dire.
Ah, j'aimerais bien justement clarifier une chose, c'est que le saxophone, en fait, n'est pas du tout un cuivre. Il est, le corps est entièrement en laiton.
Je suis gay.
Et ouais, c'est l'anche qui est en roseau, du coup, et comme c'est la base du son, ce qui permet de créer le son, c'est pour ça qu'on est dans la famille des bois.
D'accord. Juste un truc, vous parlez de la musique donc baroque, moi j'adore ça, c'est pas le souci, mais on n'a pas beaucoup d'instruments de l'époque aussi, qui marchent.
Oh, bah on parlait tout à l'heure du théorbe, justement, oui. Théorbe, luth, ça c'est des...
Non, non, mais je parle...
Ah, chez nous, le saxophone, pour le coup, n'existait absolument pas à cette époque-là.
Pas, donc vous prenez quoi, des sacs au bout, des je sais pas quoi,
on prend des saxophones, on garde toujours notre instrument, parce que au final, si ce n'est pas un instrument à cordes frottées, le fait juste de souffler, on peut quand même avoir les timbres qui marchent assez bien, pour retrouver un petit peu ce qui se faisait quand même à l'époque, que ce soit aussi pour les flûtes, etc. On retrouve quand même un petit peu les mêmes idées.
D'accord. Parce qu'on sait très bien que tous les instruments où on soufflait dedans, il y a plus de 100 ans, plus cher, il n'y a plus grand-chose, non?
Ça dépend, je pense. La liste serait longue à faire, je pense, après.
À ce point?
Oh, il y en a pas mal des instruments, quand même. Hein.
Ouais.
Il nous faut plus de deux mains, je pense, en tout cas, pour les compter.
D'accord. Alors moi, votre quatuor me fait penser à un quatuor qu'on a eu il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, quatuor de guitare, je ne sais plus comment il s'appelle, qui joue à Paris, et c'est un peu la même idée, quoi. Alors, ils prennent des chansons, ils prennent des musiques, bon, de quatuor habituel et des choses comme ça. Alors, ça demande quoi comme travail? C'est-à-dire, vous pouvez transcrire n'importe quel quatuor à cordes, prenons cordes, pour vos quatre instruments ou pas du tout? J'ai vu un nom, là. Donc.
Non, on peut pas transcrire n'importe quoi, en fait, parce que notre instrument a pas forcément les mêmes capacités qu'un instrument à cordes. Par exemple, sur les instruments à cordes, on peut faire sonner plusieurs cordes en même temps et donc faire plusieurs sons. Nous, à part dans des techniques techniques étendues de musique contemporaine, où on peut faire plusieurs sons, mais ça, on pourra pas choisir de faire sonner une note et sa tierce ou sa quinte, comme on le fait sur un instrument à cordes. Donc on pourra pas forcément transcrire n'importe quoi. Si un quatuor à cordes est écrit avec beaucoup de double ou triple cordes sur tous les instruments, on pourra pas forcément le faire. Ou alors on va devoir faire des choix de lignes mélodiques
ou de jouer à plus de 4.
Jouer à plus de 4.
Alors justement, vous jouez souvent à plus de 4 ou c'est vraiment traditionnel? Vous jouez qu'à 4 et puis c'est pas marrant.
On reste à 4, mais dans notre pratique, c'est bien aussi de jouer avec d'autres. Donc on a des projets, peut-être, de jouer avec un pianiste, des créations contemporaines. Et puis on a aussi d'autres idées qui fleurissent, il faut qu'on en reparle. Parce qu'on a aussi d'autres projets comme un CD.
D'accord, oui, ce serait une bonne idée, ça.
Voilà, mais dans les années à venir, en fait, c'est bien de collaborer entre artistes, donc on est ouvert à absolument tout.
D'accord. Et piano, quatuor, fait comme le vôtre, ça s'associe bien?
Oui. En fait, le piano, on est quatre instruments mélodiques, faire qu'une note en même temps. Le fait d'avoir un piano, ça harmonise beaucoup plus, ça remplit beaucoup plus l'espace, et donc c'est là où l'harmonie, elle marche bien entre notre mini-orchestre, entre guillemets, mélodique de quatre instruments, et un grand instrument très sonore, harmonique.
Thank you.
on peut parler des différents programmes, parce que vous faites, je ne sais pas combien de concerts, 4 ou 5, je ne sais plus.
5.
5, voilà. Donc on peut parler des différents programmes. Alors ici, vous avez joué, qu'est-ce que c'est, Debussy de Ravel. Alors c'était quoi, Debussy de Ravel?
Alors, on est parti, donc ça c'était le concert qu'on a fait au Quorum, c'était ce matin même. C'était un programme tourné autour de l'enfance, et donc des inspirations enfantines. Et donc on retrouve ça beaucoup chez Debussy, donc dans ses Children's Corner.
En particulier, oui.
Voilà, donc qui tourne surtout vers sa fille. Comment ?
Chouchou, je crois.
Exactement. On a aussi joué une pièce de Coréa, c'était Children's Song pour piano.
Et Coréa, le musicien de jazz.
Oui, Coréa, exactement. Ouais. Donc lui, en fait, il a écrit, pareil, il a écrit des pièces très courtes dans lesquelles il recherche vraiment l'innocence enfantine, quoi. À travers donc son petit côté de jazz, qu'on aime bien aussi faire au saxophone.
D'accord. Donc Debussy, Lago, alors Guillermo Lago, là, je cale, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas cherché.
Guillermo Lago, c'est un compositeur justement pour notre répertoire qui est toujours vivant.
Oui.
En fait, lui, il a...
Et quoi, d'Amérique du Sud avec une...
Alors, c'est un pseudonyme, en fait, il est néerlandais. Il s'appelle Wilhelm von Merwick.
Refait-t-il ?
Wilhelm von Merwick.
Merwick, oui, bon.
Et en fait, il a écrit 6 petits mouvements, alors ils sont pas petits mouvements, mais il a écrit 6 mouvements qui sont représentatifs de 6 villes importantes pour lui. Et dans ces 6 villes, il y a notamment Cordoba, qu'on a joué tout à l'heure et qu'on rejouera dans nos prochains concerts. Cordoba, c'est la ville de ses études, en fait, donc il y a une grande importance pour lui.
Hollandais qui a fait ses études, c'est ça, vous avez dit Hollandais, hein ?
Oui,
qui a fait ses études en Espagne.
C'est
Cordoba.
Ça,
d'accord.
C'est ça.
Ah oui.
Cologne, qu'on joue également, c'est la première ville qu'il a visitée en dehors de son pays natal, donc il était encore jeune. Donc d'accord. C'est des pièces qui sont importantes pour lui, qui retracent un peu sa vie, quoi.
D'accord. Et vous avez beaucoup d'œuvres, enfin, à part vous qui composez pour vos copains, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, on va lui parler. Parce qu'en général, les compositeurs sont très jaloux les uns des autres. Hein. Ils ne se supportent pas, hein. C'est vrai, hein. Enfin, moi, c'est un qui me l'a dit, c'est celui qui a créé le festival, d'ailleurs, M. Koering. Il m'a dit, mais on est tous terriblement jaloux les uns des autres. Alors, non ?
Pas jaloux les uns des autres.
Du compositeur, je parle. Hein.
Ah oui.
Je parle pas des trois copains. Hein.
Ah oui, non.
Non
on n'est pas du tout jaloux des uns des autres. Justement, moi j'ai tendance surtout à m'inspirer beaucoup de ce qui a été fait avant moi. Et je trouve ça très important aussi de valoriser les compositeurs qui composent pour notre formation. Et c'est ce qu'on essaye de faire du coup avec le Quatuor. Mais en règle générale, j'ai oublié la question.
Pourquoi composer jaloux des autres ?
En règle générale, on a tous une part d'inspiration qui vient forcément d'ailleurs. Notre tête n'est pas capable de fournir toutes ces choses par elle-même. Et on s'inspire toujours forcément des autres. Et c'est toujours très formateur d'écouter ce que les autres ont à dire.
Mais vous avez pris des cours de composition ou pas du tout ?
J'ai pris des cours de composition, je me suis inscrite du coup au conservatoire de Poitiers. Avant ça, j'étais inscrite aussi au conservatoire d'Annecy où j'ai fait mes études avant de venir à Poitiers. Mais oui, bien sûr, je prends des cours de composition, même si ma toute première composition, en soi, il n'y a pas besoin de prendre des cours de composition pour le faire, parce que ma toute première, justement, je l'ai faite pour orchestre d'harmonie, sans avoir pris un seul cours d'écriture ou d'orchestration ou de composition.
Oui, il y avait beaucoup d'instruments dans l'orchestre d'harmonie en général.
Oui, bien sûr.
Le type d'instrument, je veux dire.
Bien sûr. Et c'est là que, justement, le dialogue, l'écoute et la connaissance de ce que font les autres est très importante, parce que l'orchestre d'harmonie, j'avais beaucoup d'amis qui jouaient d'autres instruments que le mien, qui m'ont expliqué comment leur instrument fonctionnait. J'ai beaucoup joué moi-même dans des fanfares et des harmonies. Du coup, j'ai pu voir du répertoire, j'ai pu voir comment s'écrivait la musique pour orchestre d'harmonie. Et c'est toute cette connaissance, on va dire, qui est annexe à un simple cours de composition où on va vraiment apprendre la théorie de la composition, qui va permettre de créer des œuvres vraiment avec du sens et avec du corps.
Et combien d'œuvres à votre répertoire déjà, enfin composé d'œuvres?
Oula.
Non, comme ça.
Comme ça,
ils le savent peut-être pas, c'est pour ça.
5-6 œuvres, pas plus.
D'accord.
Mais pour le moment, c'est principalement des essais.
D'accord. Et vous trois, là, vous n'avez pas envie de composer?
Non, merci.
Ah bon, direct, mais pourquoi?
Non pas que, enfin, je me sens pas destiné à faire ça, en fait, ça demande vraiment beaucoup de connaissances, comme l'a dit Elodie, d'écriture, d'harmonisation, de composition, enfin, beaucoup de traités théoriques à quand même éplucher un petit peu pour pas faire n'importe quoi non plus sur les traités, et Moi, je trouve ça très bien que pour le coup, il y en a qui le fassent comme il le dit. Mais moi, je sens que c'est pas mon petit truc à moi. Pourquoi pas arranger, pour le coup, arranger des pièces, ça, pour le coup. Les compositions, je pense que j'ai pas la bonne inspiration. J'aurais pas ce qu'il faut.
Pareil pour vous ?
Pareil pour nous trois, je pense.
Oui, d'accord.
Mais, mais oui, les arrangements, les transcriptions, c'est quelque chose de plus abordable. Il faut quand même avoir un petit bagage. Mais on a tous un peu nos spécialités, entre guillemets. Il y a Gaëtan qui fait de la direction d'orchestre.
Ah.
Donc,
Il est pénible ?
Ça va.
Ça va. De temps il y a en plus temps. Pénible.
Non, oui. Non, on s'entend globalement bien, ça va. Voilà, on a tous nos spécialités. Louis et moi, on est beaucoup dans la pédagogie, pour le moment. Mais on peut avoir des aspects qui ressortent et qui nous faillent aller vers d'autres aspects.
C'est vous l'équivalent du premier violon, alors ?
Ah non, pour le coup, non.
Pas du tout.
Ah non, le premier violon, pour le coup, dans le quatuor, ça va être Louis au soprano.
Ah. Donc c'est vous un peu le chef, quoi.
Non,
non, il faut pas dire ça.
Oui, on n'a pas vraiment de chef. On joue ensemble, on ne joue pas guidé par l'un ou l'autre. Mais en fait, comme j'ai l'instrument le plus petit et le plus maniable, entre guillemets, c'est plus facile de montrer des choses avec et donc de diriger, entre guillemets, quand on joue. Même si Gaëtan, avec l'alto, le fait pas mal aussi. Mais il n'y a pas vraiment une personne qui lead. En fait.
C'est vous décidez en cœur quelles œuvres vous allez jouer, des choses comme ça.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Oui, on choisit toutes les pièces qu'on va jouer ensemble. Et on les travaille ensemble avec les suggestions de chacun.
Alors est-ce que vous avez, on va conclure en fait, deux questions encore, est-ce que vous avez quelqu'un qui globalement vous parle, vous écoute et vient vous dire ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mal ou pas du tout, c'est chacun la personne qui vous a appris l'instrument ou voir, je sais pas quoi.
Alors jusqu'à maintenant, comme on était tous en formation au Pôle Aliénor, on avait des cours de musique de chambre et des profs pour nous écouter.
Mm-hmm.
Donc on a travaillé avec plusieurs personnes, des instrumentistes à cordes aussi, pas que des profs de saxophone. Donc ça nous a beaucoup aidé sur plein de choses, notamment pour travailler des transcriptions. Mais là, on va être un petit peu livré à nous-mêmes, entre guillemets, puisqu'on a fini notre formation cette année, Gaëtan, Elodie et moi, et que Guillaume l'a fini l'an dernier. Donc pour l'instant, on en est
donc
là.
Vous,
donc on travaille entre
nous. C'est pas chercher quelqu'un de... Je me propose pas, hein, c'est pas ça le problème. Je ne pourquoi pas. Mais trouver quelqu'un qui... Parce que vous n'êtes pas les premiers quatuors comme ça.
Oui. Non, non. Oui, en fait, on espère continuer à se former pour continuer à nous former.
D'accord. Et dernier point, un CD, on a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui... À part le projet, c'est tout.
On commence à réfléchir. On commence à avoir une petite sélection de pièces. Voilà, on essaie de réfléchir à une thématique, entre guillemets. Enfin, quelque chose qui a un fil conducteur pour toutes les pièces, que ça soit assez cohérent. Pas juste enregistrer des pièces qui nous font plaisir, mais non, avoir une unité quand même. Vraiment quelque chose de global. Donc voilà, on avance tranquillement. Tranquillement, mais sûrement.
D'accord. Vous avez combien d'œuvres à votre répertoire ? En gros ? C'est de l'ordre de 7 ou c'est de l'ordre de 200 ?
Oh, alors moi j'aurais dit une petite trentaine maintenant, j'aurais dit.
Oui, d'accord. Et périodiquement, vous en trouvez une que vous remettez ?
Ouais, ça dépend. Bah, typiquement, là pour le festival de Montpellier, là, on a eu beaucoup de nouvelles pièces parce qu'il y avait quand même certains critères à remplir, notamment pour le concert au Corop de ce midi. Et justement, ça nous a obligés à chercher des pièces. On a tapé plus du côté des transcriptions avec les pièces de Debussy, de Correa. Et au final, c'est une bonne chose parce que ça nous a ouvert un peu plus les yeux sur ce monde-là de la transcription qu'on va, je pense, continuer à creuser un petit peu.
D'accord. Eh bien, je vous remercie. Vous avez notre concert ce soir, donc...
Hein ?
Oui.
C'est ça, exactement.
Il faut aller faire la sieste, peut-être, non ? Sans saxo, sans saxo.
Ouais, c'est ça. Une petite sieste, ça fera du bien.
Merci beaucoup, et puis peut-être à bientôt.
Oui, merci beaucoup.
Vous venez donc d'écouter les quatre membres du quatuor 4D, donc Louis Dordain, saxophone soprano, Gaëtan Dupont, saxophone alto, Élodie Durand, saxophone ténor, et Guillaume Duchier, saxophone baryton. Alors vous avez entendu une composition au milieu qui est une composition due à Élodie Durand. Voilà, il n'y a pas de titre particulier, si ce n'est qu'elle s'appelle 4D. Et je remercie les quatre membres. Deuxième interview au programme. Alors, je vais me faire un petit bémol, puisque François Dumont, qui était le pianiste, il fait partie le piano dans tous ses éclats tout au long du festival. Il y avait 10 concerts avec piano, alors pas forcément piano seul, il y en avait avec orchestre, il en reste encore 2. Et donc, Dumont était programmé le mercredi 16 juillet, et François Dumont a donné les recueils des harmonies poétiques et religieuses de Francis à l'Opéra Comédie. Voilà. Et M. Dumont a désiré faire une interview par téléphone. Et donc, comme toujours, les interviews par téléphone, on n'est pas arrivé à satisfaire à toutes les contraintes techniques. Donc il y aura un peu de sombre, il y aura un peu de bruit. C'est le téléphone portable qui amplifie tout et on ne peut pas enlever beaucoup de choses. Voilà. Donc François Dumont qui m'a raconté tout sur son piano, sur les harmonies poétiques et religieuses de Francis. Et entre à la fin de l'interview, vous entendrez un des enregistrements de François Dumont qui est du Chopin, un nocturne de Chopin. C'est le numéro 1 de l'opus 15. Voilà, c'est parti! Monsieur François Dumont, bonjour.
Bonjour, monsieur Sébastien.
Bonjour, je suis très content de vous avoir. Surtout qu'on vous a eu déjà une première fois, si j'ai bien compris, à Montpellier. J'avoue qu'honnêtement, je ne me rappelle pas. C'était quand, c'est vieux?
Écoutez, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois.
Oui.
Au festival.
Oui.
La toute première fois, il y a quand même un certain nombre d'années, en tant que tout jeune soliste, j'avais joué dans les concerts
à midi. Oui, d'accord.
Voilà, et puis j'ai eu la chance de venir plusieurs fois en récital en musique de chambre, mais souvent dans les courants de jeunes artistes.
D'accord.
Je suis très heureux de venir pour cet aspect extraordinaire que je des harmonies poétiques.
Oui, on va reprendre. Donc, j'ai envie de dire que vous avez une trajectoire un peu particulière, non? Vous êtes pas, vous avez fait des grands prix, vous avez eu 3 ou 4 ou 5 grands prix, je ne me rappelle plus. Mais finalement, vous faites votre petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Je me trompe?
Écoutez, alors j'ai la chance de jouer beaucoup, donc
oui.
C'est quelque chose de, c'est une chance quand, voilà, de pouvoir expérimenter en concert de nombreux répertoires. Voilà. Après, c'est sûr que j'ai chacun son chemin.
Mm-hmm.
Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la découverte de répertoires et puis le travail de fond, le travail en profondeur de ces répertoires, d'arriver à faire la quintessence de.
Bien sûr.
Ça prend du temps et ça demande beaucoup de maturation,
bien sûr.
De réflexion et puis pour le livrer ensuite au public.
Alors vous avez été pianiste, je dirais soliste, vous avez fait pas mal de concertos et d'œuvres avec orchestre et puis vous avez fait aussi avec un duo, vous avez fait des sonates violon-piano, en particulier Beethoven, il me semble rappeler. Et puis vous avez fait avec le quatuor de Bussy, il me semble aussi, ou des choses comme ça, non?
Oui, alors je joue beaucoup tout seul, mais j'ai aussi énormément de plaisir à faire de la musique de chambre.
Ouais.
C'est parce que j'ai régulé pendant longtemps un trio, un trio léger. Et puis bon, maintenant, c'est plutôt des partenaires réguliers, mais non exclusifs. Donc oui, je joue souvent en sonate ou avec violoncelle. Avec Marc Copé, nous avons fait
une
soirée récemment. Voilà, en sonate avec violon aussi. Et tout ça, c'est quelque chose qui me nourrit.
Et alors, de l'autre côté, si on peut dire comme ça, vous faites aussi beaucoup de musique contemporaine. J'ai vu qu'il y a du Messiaen, du Sapin, du Bacri, enfin des choses comme ça. C'est pas courant, ce genre de choses.
Alors voilà, c'est un peu une autre facette, mais c'est quelque chose, pour moi, très important. J'essaie toujours, au moins une fois dans l'année, d'avoir soit une création, soit vraiment une redécouverte, d'être investi dans la musique d'aujourd'hui, avec des compositeurs qui sont vivants, qui sont avec nous. C'est un grand privilège comme interprète. Donc, il y a quelques... l'an dernier, j'ai notamment pu faire une double création avec Sophie Lacaze, Sophie Lacaze que j'ai rencontrée. Mmh. Montpellier, Festival de Montpellier.
Ah, d'accord.
Voilà, donc ça fait des petits tout ça. voilà, c'est une magnifique compositrice que j'aime énormément. On a pu créer une œuvre avec une maîtresse qui est chanteuse.
D'accord.
Une magnifique œuvre de Sophie. Donc c'est la deuxième œuvre que j'ai créée de Sophie. Et puis, une autre compositeur anglais, Christian Mason aussi. Et puis, j'espère qu'on va continuer.
Il n'y a pas de raison.
Voilà, c'est toujours dans l'exploration. Et puis, le fait, en tant qu'interprète, de se mettre au service d'un compositeur, de la musique de notre temps, de la défendre. De la rendre visible.
Et ce qui n'empêche pas que vous avez enregistré l'intégrale des sonates de Mozart, me semble, si je ne me trompe pas.
Oui, l'intégrale des sonates de Mozart, je suis dans les concertos aussi.
D'accord.
C'est un répertoire que j'aime énormément.
D'accord. Alors maintenant, on va prendre donc un peu le concert que vous allez donner demain soir, donc à la salle, attendez, à l'Opéra, hein, c'est ça, hein,
l'Opéra. Oui.
Voilà, les harmonies poétiques et religieuses. Alors ça, c'est une œuvre à part, j'ai envie de dire, chez Liszt. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ceux qui adorent, vous en faites peut-être partie, et puis il y a ceux qui oublient complètement qu'elle puisse exister. Alors c'est une œuvre relativement de jeunesse de Franz Liszt, hein, qui est inspirée par des poèmes de Lamartine. Et puis donc Liszt s'est promené là-dedans avec au minimum deux grands morceaux. Il y a les funérailles, il me semble. Et puis il y a, voilà, et puis il y en a une autre aussi, c'est quoi, la bénédiction de Dieu dans la...
La bénédiction de Dieu.
Voilà. Alors comment vous situez cette œuvre d'abord dans... par rapport à la technique que demande Liszt, par rapport à la vie, ce qu'a composé par ailleurs Liszt, et puis par rapport à vous aussi. Comment vous la sentez cette œuvre?
Écoutez, vous l'avez dit, c'est un style complètement singulier, alors qui a été commencé par le tout jeune liste, ouais. Effectivement, en 33, donc le jeune liste de 22 ans, mais il a mis 20 ans
oui, c'est ça.
Pour l'achever, et il a achevé en 1963. Alors, c'est intimement lié à la littérature, aux harmonies poétiques religieuses, donc le recueil de Lamartine, ce poème, La pensée des morts, qui a complètement inspiré la première œuvre du recueil, et puis ensuite, il y a repensé, il l'a retravaillé, bon, il a vécu différentes choses, et il y est retourné. Mmh. On a un livre complètement, on a la quintessence de maturité de liste, donc bien sollicité, certes, mais toujours au service du propos musical. C'est une œuvre d'une très très grande profondeur.
Oui, c'est ça.
Voilà, d'une vision extraordinaire, et aussi d'une très grande variété. Alors, vous l'avez rappelé, les deux moments clés du recueil sont les funérailles et la bénédiction de Dieu.
Ça fait combien chacun de l'entendre, ces deux morceaux?
Alors, les funérailles, c'est à peu près 11 minutes, et la bénédiction, on est à 16-17 minutes. Hein,
d'accord, oui, ça fait des beaux morceaux.
Voilà, et ce chantier dure 1h15.
Ah oui, d'accord, d'accord.
On a quelque part les deux extrêmes, donc la bénédiction de Dieu, la solitude, qui est directement inspirée d'un poème de Martin, qui est absolument magnifique, hein, d'où me vient, oh mon Dieu, cette foi, comme sur Abonde, c'est magnifique. Et c'est une œuvre épurée, éclairée, céleste, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Merci beaucoup. Thank you.
C'était notre troisième émission sur le festival, le nouveau festival, je ne vais pas y arriver, de Radio France Occitanie Montpellier 2025. C'était ici François Dumont, le septième pianiste de la série Le Piano dans tous ses éclats. Vous avez quand même à côté de Dumont, Chamaillot, Korobeynikov, Trifonov, c'est des sacrés pianiste, tout cela. Voilà, donc je fais toutes mes excuses une fois de plus avec la qualité technique de l'interview. On est passé par un téléphone portable et un téléphone portable, c'est un téléphone portable. Voilà. Tout bruit qui passe est amplifié et puis en plus, il est difficile de raboter tout ça après. Voilà. Désolé, mais enfin, vous avez entendu l'essentiel de ce que nous a raconté M. François Dumont. Vous avez entendu au milieu. Donc, le premier nocturne opus 15, le numéro 1 de Frédéric Chopin. Voilà, cette émission s'arrête pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons pour la quatrième et dernière émission. Normalement, il n'y aura qu'un artiste, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des petites variations, on pourra peut-être en avoir un autre. Je remercie Yann à la technique qui a fait des prouesses pour essayer de rectifier notre interview. Il est un peu désespéré, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, merci Yann, à bientôt, au revoir.